VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, que vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 10 minutes, notre magazine hebdomadaire L'Amérique et vous, aujourd'hui avec Jean-Roger Billon en rediffusion. Mais en attendant, voici un résumé des principales nouvelles du monde. Procès Hissène Habré au Sénégal. L'ancien président tchadien n'a pas voulu comparaître à cette nouvelle audience, mais il y a été contraint. Une fois de plus, M. Habré a récusé les chambres africaines extraordinaires et ses avocats commis d'office. Les conseils que l'ancien président tchadien avait choisis ne veulent pas non plus assister à ce qu'il qualifie de mascarade. Le reportage de Sokhna Natambaï, notre correspondante à Dakar.
Le procès de Hissène Habré a repris sur fond de violence. L'ancien président tchadien n'a pas voulu se présenter et le président des chambres africaines extraordinaires a fait appel à un huissier pour constater cette absence. Après une suspension d'audience de 45 minutes, la cour a fait appel aux éléments pénitentiaires d'intervention. 10 d'entre eux l'ont amené manu militari et 4 l'ont forcé à s'asseoir sur un siège. Ce sont des avocats de la défense excédée qui s'expriment. Maître François Serre.
On est dans une situation de violence absolue. Le président Kam, aujourd'hui, s'est inscrit dans un processus de mensonge. Le président Kam a menti en prétendant que le président Habré avait été amené de son plein gré au tribunal et qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne venait pas dans la salle.
Maître François Serre et Maître Ibrahima Diawara, les deux seuls avocats reconnus par Habré, n'ont pas assisté à l'audience. C'est leur stratégie de défense. Quant à l'accusation, elle condamne également cette méthode tout en dénonçant l'attitude de la partie adverse. Georges-Henri Bautier, l'un des avocats des parties civiles.
Là, il a le droit de parole de conseil, le droit de ses défenses tout seul et la cour a le droit de lui désigner des avocats d'office.
La défense a par ailleurs fait état d'une manipulation de la liste des témoins à décharge. Sokhna Natambaï, Dakar, VOA Afrique.
La Cour pénale internationale demande à l'Afrique du Sud de s'expliquer pour n'avoir pas arrêté Omar Hassan al-Béchir en juin dernier. Le président soudanais avait bravé une fois de plus le mandat d'arrêt de la justice internationale en se rendant sans inquiétude dans un pays signataire de l'accord de Rome. Les détails avec Eddie Isango.
L'Afrique du Sud doit remettre au juge de la CPI, au plus tard le 5 octobre, ses vues sur les événements entourant la présence d'Omar El-Béchir au sommet de l'Union africaine à Johannesburg les 13, 14 et 15 juin 2015, ont indiqué les juges de la CPI dans un document. Le gouvernement de Jacob Zuma doit en particulier expliquer sa défaillance à arrêter Omar El-Béchir et à les remettre à la cour. Malgré une mesure d'interdiction prise par un juge de la CPI, les autorités sud-africaines avaient laissé partir les présidents soudanais qui est sous le coup d'un mandat de la CPI et qui participait au sommet de l'Union africaine. Les juges de la CPI rappellent qu'en tant que pays signataire de l'accord de Rome, l'Afrique du Sud était dans l'obligation d'arrêter M. Béchir, poursuivi pour génocide et crimes de guerre dans son pays. Même si ses déplacements sont réduits, M. Béchir continue à s'y rendre à l'étranger sans être inquiété, parfois dans des pays membres de la CPI, là qu'elle ne dispose pas de sa propre police et doit s'en remettre à la coopération des États.
Au Mali, les autorités ont mis fin à la course des auteurs des récentes attaques à Bamako et Baguineda. Ils ont été arrêtés et de nombreux pistolets, mitrailleurs, grenades et cartouches ont été saisis. Nous retrouvons à Bamako Kassim Traoré.
Ils sont auteurs des récents attentats contre l'aménagement et les postes de sécurité à Bamako. Courant la nuit du 5 au 6 septembre 2015, une équipe d'intervention des services spéciaux de sécurité malienne a procédé à l'arrestation de 3 personnes, membres du commando, auteurs des attaques contre les logements du personnel de l'aménagement à Mayambougou, de la brigade de gendarmerie de Baguineda et du poste de police de Dotogar de Sogoninko. La première personne arrêtée est Hassan Diko, alias Abou Leila. Il est la deuxième personnalité du Front de Libération de Massina, principal adjoint d'Amadou Koufa, ancien de la police islamique de Tombouctou, chef du commando de Bamako. La deuxième personne arrêtée est Ali Sangaré, conducteur de taxi. Il est le transporteur du groupe. La troisième et dernière personne arrêtée est Ayouba Sangaré. La perquisition à son domicile a permis de retrouver la cache d'armes du commando et un important lot de pistolets mitrailleurs. Des grenades et des cartouches ont été saisies. À la suite des enquêtes, il ressort que Hassan Diko est le principal adjoint d'Amadou Koufa. Il est fondateur de la cellule djihadiste de Bamako. À l'instar d'Amadou Koufa, il a effectué plusieurs voyages au nord du Mali à l'effet de rencontrer Iyad Agali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Mali est en état d'alerte après que les autorités de Bamako, la capitale du pays, ont détecté un cas de poliomyélite dont la date de paralysie remonte, dit l'AFP, au 20 juillet 2015. L'agence cite l'Organisation mondiale de la santé qui a émis aujourd'hui un communiqué à ce sujet. Le ton monte entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Asmara accuse Addis Abeba d'intensifier les agressions et de préparer une évasion, pomme de discorde entre les deux pays voisins depuis des décennies et qui, selon Asmara, prend un tour nouveau ces derniers jours et évoque des pressions politiques à peine voilées. L'Éthiopie n'a pas pour le moment réagi à ces accusations. La forêt recule, mais moins vite qu'avant, dit en substance le directeur général de l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, José Graciano da Silva, et d'ajouter que les forêts plantées seront aussi en augmentation pour répondre aux besoins croissants de l'humanité. Un rapport publié par l'organisation ce lundi, à l'ouverture du 14e sommet forestier mondial à Durban, en Afrique du Sud, souligne toutefois que ces bonnes nouvelles doivent nous garder vigilants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le flux de réfugiés vers l'Europe s'est poursuivi ce lundi. Le passage à travers la Hongrie est beaucoup plus facile que la semaine dernière, quand ce pays d'Europe centrale semblait prêt à tout faire pour empêcher les migrants d'atteindre l'Europe occidentale. Entre-temps, Paris et Berlin ouvrent leurs portes à des milliers de réfugiés, les Syriens notamment. Tatiana Mosso nous en dit plus.
À Keleti, la gare principale de Budapest, on peut maintenant voir les horaires des trains devant transporter les réfugiés en Autriche. La semaine dernière, la police avait fait usage de gaz contre les migrants. Selon un observateur, les trains à destination de l'Autriche sont maintenant juste chargés de migrants. À leur arrivée à la gare Westbahnhof de Vienne, les réfugiés sont accueillis par des applaudissements, mais l'Autriche n'est pas leur destination finale. En fait, très peu de réfugiés choisissent de rester en Autriche. Le but de l'Odyssée, c'est l'Allemagne, où beaucoup de migrants ont déjà des parents et où le gouvernement a déclaré qu'il est prêt à accepter 800 000 personnes. Berlin a également annoncé un supplément de 6,6 milliards de dollars en fonds publics l'année prochaine pour absorber les réfugiés dans la société allemande. De son côté, la France a promis d'accueillir sur 2 ans jusqu'à 24 000 migrants. Le président François Hollande, écoutez-le.
La Commission européenne propose ou va proposer de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années, ce qui représentera pour la France 24 000 personnes. Nous le ferons.
Pour une solution adéquate et durable à la crise migratoire, le président français insiste sur la nécessité d'une concertation à l'échelle européenne.
Le CCG, Conseil de coopération du Golfe, s'implique davantage dans la crise au Yémen. Selon la chaîne télé Al Jazeera, un nouveau déploiement au sol a débuté avec la participation de plusieurs milliers de soldats venant notamment du Qatar et de l'Arabie saoudite. Précision, Michel Joseph.
Les pays arabes du Golfe ont lancé depuis fin mars une campagne aérienne contre les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent une partie du Yémen, y compris la capitale Sanaa. Mais si l'information de ce lundi est confirmée, souligne l'AFP, il s'agirait du premier déploiement connu de forces terrestres du Qatar au Yémen. Ce déploiement se déroule dans la province de Marib, à l'est de la capitale yéménite. Un millier de Qataris, soutenus par plus de 200 véhicules blindés, sont arrivés dimanche soir au Yémen, en passant par l'Arabie saoudite. Simultanément, Riyad a déployé hier à Marib d'importantes forces de ses unités d'élite, apprend-on de sources diverses dans la région. Il y aurait 1000 soldats saoudiens dans ce nouveau déploiement, avec des blindés et des chars de combat, indique-t-on de même source. En tout, environ 10 000 soldats des pays du CCG combattent au sol au Yémen, où le conflit qui a forcé le départ de 2 présidents a fait près de 4 400 morts et 1 300 000 déplacés, selon l'ONU. L'annonce de ces renforts fait suite à l'attaque aux missiles attribuée aux rebelles qui a fait vendredi 60 morts parmi des militaires émiratis, saoudiens et bahreïnis, les plus lourdes pertes de la coalition depuis mars.
Une 60aine d'États doivent prendre part demain mardi à une conférence internationale à Paris sur le sort des minorités face aux groupes et États islamiques. Des sources diplomatiques ont confirmé à l'AFP que lors de cette rencontre, un plan d'action sera dévoilé. Il prévoit dans ses grandes lignes de préparer et faciliter le retour volontaire et durable des déplacés, promouvoir des solutions politiques respectueuses des droits de l'homme et mettre fin à l'impunité de ceux qui ont commis des crimes contre les populations pour des raisons d'appartenance ethnique ou de conviction religieuse, a indiqué un porte-parole du gouvernement français. Nouvelle du monde. Washington, chez Robin Dorsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.